Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout,
c'est quoi?
On parle de vol de voiture. Ben, Tammy cherche des tannants un matin, là.
Ben, j'en cherche. Si vous avez déjà vécu ça, si vous faites ça, appelez-nous donc. On va garder votre anonymat, mais on aimerait vraiment avoir des réponses à des questions. C'est mystérieux pour nous. Parce que hier matin, si on vous parle de ça, il y a un contexte. C'est qu'hier matin, il y a 4 voleurs de voitures de luxe à Laval, et ils sont Lavalois, qui ont été interceptés par la Sûreté du Québec.
Okay.
En fait, ils filaient à plus de 170 km/h sur la 40 dans le coin de Rigaud.
Okay.
Et ils étaient à bord de véhicules sport utilitaires de la marque Lexus. Fait que c'est pour ça qu'on vous parle de voitures de luxe.
Okay.
C'est un gars de 18 ans, une fille de 19 ans et deux autres personnes mineures de 15 et 16 ans.
OK. Fait que
c'est sport une... d'envie, mettons.
Ouais, c'est ça.
Et tu voles des voitures de luxe. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que c'est votre cas, peut-être que plus jeune, vous avez fait ce genre d'affaires-là pour des organisations qui sont peut-être plus grandes que vous. Votre
parce
propre...
qu'il y a un commerce, on le sait,
ben,
on n'est pas
là, ça
existe.
Mais c'est la police provinciale de l'Ontario qui avait levé un flag, et ce qui fait que la Sûreté du Québec était comme ben allumée à la recherche de voleurs comme ça. Donc, quand ils ont vu ça, ils sont partis à leur poursuite. Deux des trois VUS auraient possiblement été volés dans la région de Toronto. C'est pour ça que la police de l'Ontario...
Puis ils s'en venaient au Québec avec?
Probablement. C'est dans la direction Est, effectivement. Au courant des prochaines heures, les suspects vont être rencontrés par les enquêteurs. Il y a évidemment des accusations qui vont tomber.
Mais
il y a des mineurs là-dedans. Bref, on vous pose la question, avez-vous déjà fait ça, vous autres, des vols de chars?
Parce que, écoute, le classique dans le temps, c'est, là, je te parle d'il y a 40 ans puis 50 ans, c'était en dessous, dans la console, il y avait deux fils que tu touches ensemble, ça faisait starter le char, tu bypassais.
C'est
donc,
pas une légende urbaine, switch, ça?
Ben,
c'est
pas une légende urbaine. Je sais pas si tu peux encore faire ça, mais les vieilles mécaniques, tu pouvais ça. Aujourd'hui, c'est des mécaniques, c'est très électronisé, c'est informatisé, je devrais dire, plutôt. Là.
Mais on en lit des articles, là, de nos jours, là, qui spécifient.
Il y a des gadgets.
Les voleurs de voitures là de modernes, ils ont la capacité de copier la clé, l'information de ta clé extrêmement rapidement et de partir avec ta voiture vraiment là quelques secondes à peine. Moi, j'ai une amie qui il y a à peu près un mois et demi, c'est ce qui est arrivé. Il y avait quelqu'un qui rôdait autour de sa voiture. Elle habite à Montréal, un quartier bien tranquille. Puis il y avait quelqu'un qui rôdait autour de son char, puis elle dit à son chum, ah, c'est bizarre, quelqu'un autour de la voiture, mais en même temps, c'est peut-être un voisin ou je sais pas, il check le modèle ou peu importe. Et le lendemain matin, c'était fini. Il y avait plus de voiture.
C'est vraiment plus
elle a rien vu aller.
Plus fréquent qu'on pense. On cherche donc quelqu'un qui l'aurait déjà fait et qui va nous expliquer comment ça se passe, puis c'est quoi la technique pour que nous aussi on soit avertis. On le fait un peu pour s'aider là entre nous ce matin.
C'est monsieur le juge qui prend vos appels là et il nous fait signe. As-tu trouvé quelqu'un?
790 peut-être. C'est quoi? 790-2564. Attends un peu.
Monsieur X
a volé 200 voitures de luxe en 4 ans.
Oh, il est smart d'accepter de nous parler.
Le podcast Debout les comiques.
Tammy, t'as mis le feu parce que la messagerie texte, les lignes sont encore pleines au téléphone. On cherche des gens qui ont commis des vols de voitures. Sans l'encourager, on veut comprendre ce matin.
Alors, on a Monsieur X en ligne. Bonjour, Monsieur X.
Bonjour.
Alors, toi, t'as volé environ 200 voitures en 4 ans. Tu volais des voitures de luxe?
Ben oui, un peu de tout genre, mais en général, c'était beaucoup d'importés. Ou sinon, moi, je les appelle les Italiennes, ceux qui sont... plus fancy, mais oui, à peu près 200 véhicules en 4 ans.
Quand
mais
même.
T'étais-tu un gros voleur d'auto, un moyen voleur d'auto, un petit voleur d'auto?
Je vais être franc, j'en connais du monde aujourd'hui encore qui sont peut-être même, je peux dire, 2 à 3 fois plus gros que moi.
Okay. Et Colin, OK. Puis toi, est-ce que tu volais, est-ce que c'était des commandes ou est-ce que tu allais par hasard? Comment ça fonctionnait? Tu fais quoi avec la voiture après en plus?
C'est des commandes. C'est vraiment parce que c'est pas comme si on allait chercher une petite Toyota Echo. C'est vraiment des voitures visées par, dans le fond, je pourrais dire l'acheteur. Puis
tu faisais combien par voiture?
Ouais.
Environ 2 500 $, tout dépendant de la voiture, mais tu vois, mon meilleur coût, moi, ça a été 15 000 $.
Oh, puis c'était quelle marque? Quelle marque?
La marque, ça me gêne un peu, là, mais la marque en tant que telle, c'était un GMC, dans le fond, je peux même dire un GMC Sierra 3500, brand new de l'année, dans le fond.
Un pick-up. Okay.
Ça te prenait combien de temps, le temps où tu spoques l'auto puis que tu la démarres? Tu faisais ça en combien de temps?
60 secondes.
Comment tu faisais ça?
Tout simplement, c'est... ben aujourd'hui c'est encore plus facile qu'avant, mais avant c'est avec tout simplement des outils, je m'excuse le terme, mais une grosse paire de couilles, puis surtout mais de la rapidité, puis tu sais, faut que tu saches quoi faire. Donc quand tu arrives dans le véhicule, ça prend environ 40 secondes, puis le véhicule est démarré et
puis t'es parti. Mais tu joues avec des fils, tu comment tu fais ça?
Ben en fait, avant on avait moi ça fait très long, ça fait quand même assez longtemps que j'ai arrêté.
Ouais.
Avant on avait tout simplement un ordinateur qui allait dans le système. Okay. Puis après ça on allait jouer avec tout ce qui était au niveau de l'allumage du véhicule, puis une combine très simple, puis on partait avec les véhicules sans problème.
Mais comment je peux faire, monsieur X, moi comme propriétaire de voiture, pour me protéger de l'homme que tu étais à l'époque?
Ben aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les véhicules sont plus sécuritaires d'un genre qu'au niveau, on a de la technologie qui vient à jouer avec ça, c'est que il y a des tags aujourd'hui qu'on appelle.
Ouais.
Pour faire taguer le véhicule, c'est pas très dispendieux, c'est environ 300 $.
Ouais.
Ça vaut vraiment la peine. J'ai plusieurs de mes amis qui ont des véhicules de luxe de l'année qui sont faits carrément. Le véhicule a disparu dans la nuit. Puis grâce au tag, en moins de 24 heures, sans l'aide de la police, ils ont trouvé leur véhicule.
Ah, et c'est bon. Quand même. Là, parle-nous de toi, Monsieur X, maintenant. Est-ce que tu
fais plus
tu
ça,
vas
là.
Bien? Ta vie a changé?
Non, ben oui, ma vie a très changé. Moi, je suis rendu sur les routes. Mais ça a très, très changé. Puis surtout aussi...
Tu t'es fait arrêter. Moi, tu t'es fait arrêter déjà, là.
Oui, j'ai fait de la détention, j'ai fait un bon moment avec mes camarades qui m'accompagnaient parce qu'on était 8. Donc j'ai fait un très bon en langage de la rue, j'ai fait un très bon chiffre.
Ouais.
Mais non, c'est ça, ça a été des belles et des mauvaises années.
Mm.
Mais c'est pas quelque chose que je referais demain matin. Parce que ben on grandit, on mature, puis surtout ben on apprend. Donc
Monsieur X, merci infiniment vraiment. D'avoir pris du temps et de nous avoir expliqué ce point de vue là.
C'est
super. Ce matin, je suis sur la route à longueur de journée, puis c'est le seul poste que j'écoute. Puis dès que vous embarquez le matin, vous savez même pas à quel point vous faites ma journée.
Merci infiniment. On est content de te savoir là.
Merci d'avoir contribué à ton émission alors.
Exactement. C'était un peu ton show ce matin, mon cher Monsieur X. Merci beaucoup.
Les comiques, de retour après ceci. Debout
les comiques! 96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
On est dans une ère de fake news et de légèreté.
Tellement.
Où le rire a pris le dessus sur les faits véridiques. Là, il est temps de remédier à la situation.
Ben oui.
Alors, c'est le temps des « Saviez-vous que? »
Ben oui!
Saviez-vous que?
Une chance que t'es là.
Ça fait plaisir. Voyons, j'ai de la difficulté à l'aborder.
Ben oui, t'es ému.
Ben, c'est parce que j'étais humble, puis là, je peux plus être humble. J'ai comme la tête enflée. Hey, saviez-vous que le dernier match du Canadien ce soir, c'est un peu comme ta grand-mère de 97 ans qui se fait poser des nouveaux seins. Ça s'en changera pas grand-chose au résultat final. Saviez-vous que Stéphane Fallu était un bébé non désiré et qu'au départ, ses parents voulaient l'appeler «
Il aurait pas fallu. »
Ah, ça, c'est nono.
Non.
Ça, c'est nono.
Saviez-vous que j'ai un téléphone intelligent avec plus de 3000 fonctions différentes, mais j'ai toujours pas trouvé d'outils plus sophistiqués pour classer mes factures d'impôts qu'une boîte de souliers?
Ouais. Moi non plus.
Où s'en va le monde? Saviez-vous qu'Oli, ça gâche le mood de célébrer après avoir réussi à lancer tes bobettes dans le panier à linge? C'est pas le timing parfait. Saviez-vous que faire exploser une cervelle sur un mur, c'est moins dégueu que la plupart des micro-ondes de bureau?
J'inclurais aussi les réfrigérateurs là-dedans.
De bureau.
Man, ça pue.
Oui,
ça pue.
En fait, tu choisis l'objet puis rajoute de bureau.
T'as raison.
Voilà. Ouais. Saviez-vous que si j'avais un commerce de pois chiches, j'appellerais ça 1, 2 pois, 4, 5 chiches. Engagez-moi.
Il y aurait un line-up.
Tu irais.
Ben ouais.
Tu irais.
Amen. Je dépenserais toutes mes payes.
Je comprends.
Oui.
Je savais que c'était accrocheur. Appelez-moi Tammy Marketing Verge. Saviez-vous qu'un futur vendeur de potes très doué, c'est un génie en herbe? En herbe. Non, mais hein?
En fines herbes.
Saviez-vous qu'il n'y a rien de plus agréable que de s'asseoir sur le bol chaud d'une toilette chauffante? Jusqu'à ce que tu t'aperçoives qu'elle n'est pas chauffante. Imagine, toilette chauffante de bureau. Saviez-vous que plus une personne a un prénom original, plus ça va être quelqu'un de banal? Désolée, t'as rien de spécial, Joachim Anémone. En connaissez-vous?
Billy Delier ou Tammy Verge, on a deux exemples ici.
On est banal.
vous êtes banaux.
Saviez-vous que Lou Bega, ça c'est le chanteur de Mambo No. 5,
oui,
travaille maintenant dans un fast-food où il crie souvent « Combo No. 5! » Mise en abîme. Saviez-vous que ça n'a jamais rassuré aucun enfant en Éthiopie de savoir qu'un petit Québécois a écouté ses parents puis a fini toute son assiette? Ça ne l'a jamais rassuré. On arrête avec ça. Et finalement, saviez-vous qu'ironiquement, dans un marché aux puces, c'est la force de personne marcher? C'est ça.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
Je vous parle comme un petit truc coquin de sexualité en ce vendredi, comme à toutes les semaines. Cette fois-ci, je vous parle d'un truc qui est un petit peu plus mitigé. Déjà, vous avez commencé à réagir.
Oui, c'est très tranché, les réactions.
On parle de candolisme. Tantôt, je l'ai mal prononcé. Là, c'est du candolisme. C'est le fait d'aimer regarder son ou sa partenaire avoir une relation sexuelle avec une tierce personne. Donc, tu es en observation. On ne parle pas d'échangiste, OK? Et juste vous dire qu'il y a le roi Candole qui avait, c'est ça, pourquoi candolisme? C'est basé sur lui, là, tu sais, sa femme était jolie, puis il invitait ses serviteurs à aller l'observer, voilà. C'est une pratique qui était très patriarcale, mais qui a évolué maintenant avec le temps. On dit que les adeptes disent que c'est un libertinage sexuel respectueux, égalitaire, tu sais, parce que c'est du partage, c'est un jeu, c'est un moment plein de confiance et ça nécessite de l'investissement de part et d'autre. Là, tu sais, on prend pas ça à la légère. C'est fait dans le consentement, bien sûr.
Puis le but, c'est de regarder ça et de ressentir soi-même de l'excitation?
Exactement. Ressentir l'excitation provoquée par le plaisir de son ou de sa partenaire. Il y en a qui disent aussi que c'est un peu érotiser la peur parce que t'as peur de perdre l'autre.
Okay.
L'autre a du plaisir avec, donc il quelque part il s'éloigne de toi, donc tu ressens comme une genre de peur et ça devient érotisant.
Il y a Doris qui nous écrit sa messagerie texte. Elle dit, c'est pas voyeur ça de tu sais, quand tu veux voir, là, mais c'est...
Ben, c'est parce ben, que voyeur, ça pourrait être quelqu'un que tu connais pas. Sans consentement. Ouais. Exactement. Là, on est vraiment dans une mise en scène orchestrée.
Ah, non. Hey,
t'as peut-être choisi à deux le partenaire, t'as choisi l'endroit où ça allait se passer, la mise en scène. Tu sais, je veux dire, et quand je fais l'amour avec une autre personne, je suis conscient que mon partenaire est en train de me regarder. Tu sais, c'est toute une organisation, là. On dit que c'est un moyen de faire évoluer ses propres pratiques sexuelles. Tu sais, on a toujours un peu la même sexualité avec, en couple. Des fois, c'est tristounet, ben, ça relance, ça apporte de la nouveauté, du piment, et on se rend compte à quel point on aime la personne avec laquelle on partage notre vie.
Mais je suis pas rendu
parce qu'on
là,
ressent
ça me confronte
une
au bout,
émotion.
Mais je respecte ceux qui vivent ça puis qui c'est fait dans le comme je te dis dans le respect aussi. Tu sais, il y a toutes sortes de pratiques.
Mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, ils le disent vraiment dans l'article. Ils disent il y a des gens qui sont hyper jaloux ou des gens qui se rendraient vraiment tristes. Allez pas là, là. C'est sûr que ça. Ça...
Mais non.
Puis j'en vois sur la messagerie texte.
Alex,
là, qui
lui dit je le ferais. Moi, je l'accepterais.
Ah oui. Ouais, moi, je serais plus à l'aise d'avoir un couple ouvert avec un chum qui ne me dit pas ce qu'il fait que de vivre le candolisme.
OK, fait que toi, tu préférerais ne pas le savoir.
Moi, je préférais qu'à un moment donné, mon chum puis moi, on ait une conversation en se disant « Écoute, on ressent de l'attirance vers d'autres personnes. Est-ce qu'on se donne la possibilité d'aller ailleurs? » Mais...
Je veux pas être là.
Je veux pas le savoir.
Là, puis on
tu fais tes affaires, puis moi, je fais les miennes, mais on vit notre vie comme si rien n'était. Je serais plus ouverte que de regarder mon chum faire ça.
Je comprends ton point. Moi, je me rends compte que je pense que je serais pas game, mais que j'ai un indice que je pourrais être une bonne candidate.
Ah ouais?
Moi, je suis dans un lieu, là, il y a un party, là, puis je sais quel type de fille plaît à mon chum. Tu sais, des fois, oui. Je sais sur qui il y a des kicks, il sait un peu c'est quoi mon genre aussi. Et des fois, dans un party, je vais voir mon chum être avec une fille et je vois complètement qu'il est sous le charme. Je vois ce qu'il fait qui m'indique qu'il tente de la charmer et je ne suis pas dans un état où...
T'es pas jalouse.
Ça donne mon party. Au contraire, moi, ça me charge, mettons. Ça me...
Et là,
aller dire à ta amie, c'est peut-être ton petit côté compétitif. Y a-tu quelque chose là-dedans que ça va chercher qui me challenge, qui me... Mais moi... J'aime ça. Je vois tous ces signes-là et je fais... Tu sais, ça m'excite de le voir dans un état comme ça.
Est-ce que tu vas aller le recharger? T'sais, tu vas aller chercher ton chum ou est-ce que c'est vraiment juste une observation?
Je pense que ça va me charger puis que je vais l'utiliser avec lui dans la solitude parce que... Ouais, ça va pas être une affaire de voyons ton souhait de là.
Est-ce qu'Antoine le sait ou il l'apprend là présentement?
Pour vrai, je pense que j'en ai jamais parlé de ça, mais c'est mon jardin secret à moi.
Je comprends.
C'est ça. Puis ça fait que pour moi, ça relance. T'sais, c'est niaiseux. C'est comme quelqu'un qui fait hey mon. On a chacun notre réaction, là, mais mon chum me trompe, puis je suis persuadée qu'il y a des filles ou des gars qui vont dire quand mon chum revient ou ma blonde revient vers moi. Je veux pas le perdre, je vais me faire une nouvelle pour que le feu reprenne. Tu sais, c'est la chanson de Céline Dion, mais je pense qu'il y en a qui ressentent ça, alors qu'il y en a d'autres qui vont se buter puis que le feu ne reprendra pas.
C'est l'aigle noir.
Moi, je pense que je suis du style à vouloir.
Ah ouais, hein.
Ouais, c'est peut-être pas sain là, tout ce que je vous dis.
Non, pas pantoute.
En fait, c'est d'une honnêteté, d'une franchise.
Tous les comportements sont bons là, je pense honnêtement.
Mais pas tous, mais.
Non, mais si tout le monde est à l'aise et qu'il y a du consentement, évidemment.
Ben oui. Mais allez-vous faire ça en fin de semaine du condolisme?
Candolisme.
Du consentement candolisme.
Joe écrit. Moi, je vais faire du gandalfisme. You hein? Shall
Mais
not pass!
Il y a des gens à qui ça parle. Yannick écrit, moi, ma blonde avec une autre femme, n'importe quand, c'est déjà arrivé, puis je regardais.
Ah bon? Ben, tu vois, c'est
non, mais tu sais, la question, c'est avec une autre femme, OK? Avec un autre homme.
Oh! Ah! Parce qu'on le dit dans l'article, on dit que c'est beaucoup hétéronormatif, là.
C'est
dans le sens, c'est pas une expérience sexuelle auquel t'assistes. Non, c'est bien, ce que tu pourrais faire avec elle, c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
Ça, c'est une autre game, je pense.
C'est une autre game.
Mon Dieu,
Je pense que j'aurais pu en parler jusqu'à
9h.
Mais ça va vous faire un sujet.
Ça
va vous faire un sujet en fin de semaine en couple, là, devant un bon verre de vin, une bonne bière.
Le podcast Debout les comiques.
And I still have all of my name tags and contestant cards from all the tapings I've been to. Pretty sure it was 37 altogether.
Ça, c'est la voix de Ted Slauson. Ted Slauson, c'est un candidat de The Price is Right. The Price is Right, c'est une émission classique aux États-Unis. Là. C'est l'émission avec cette musique-là.
C'est la musique de Dans ta face, Cloutier.
Ben oui. J'ai le même âge que Bob Barker.
C'est un classique. C'est une émission qui, quand même, a commencé dans les années 70 et qui joue encore actuellement à la télé américaine. Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, moi, mes amis revenaient de l'école puis écoutaient les Simpsons. Moi, j'écoutais The Price is Right. Continuellement, j'ai une fascination pour cette émission-là et surtout l'époque où c'était Bob Barker qui animait l'émission. Et j'ai regardé hier un documentaire, puis c'est l'extrait qu'on a entendu, qui s'appelle Perfect Bid, The Contestant Who Knew Too Much. Donc, la mise parfaite, le candidat qui en savait trop. C'est disponible actuellement sur Netflix, mais c'est sorti quand même en 2017. Mais c'est là que ça fait beaucoup jaser parce que c'est arrivé sur la plateforme mondiale. Et le principe, c'est que dans les années 70, quand ça a commencé, The Price is Right, il y a un petit gars qui s'appelait Ted Slauson qui, lui, était fasciné par l'émission. Et lui, son seul et unique but était de regarder chacun des épisodes puis de se dire... Hey, attends une seconde.
Il y a un pattern.
Les prix reviennent souvent.
OK. Hein? Il y a une récurrence.
Est-ce que je pourrais, mettons, imaginer que je fais un document Word et je note chacun des prix? Alors donc, dès qu'il était plus, vraiment très jeune, dans la, tu sais, mettons 10-12 ans, là, il s'est mis à noter chacun des prix et son but était d'avoir 18 ans et d'assister à The Price is Right pour pouvoir participer et potentiellement entendre ça.
Julie Woods, come on down!
Et donc, il a 18 ans, il commence à assister à The Price is Right. Et il commence, quand tu vas assister à l'émission, tu peux crier le prix. Tu sais, tu peux crier le prix, t'encourages la personne qui participe. Et lui, il arrêtait pas de crier les prix exacts. Jusqu'au moment donné où Bob Barker fait « Hey, Theodore, voyons, t'as toujours les bons prix, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, il commence à se faire une genre de petite popularité sur The Price is Right. Et finalement, il participe à l'émission, il gagne pas. Il oublie ça, mais il continue à y assister quand même jusqu'à ce qu'à un moment donné, en 2008, il aide un participant qui s'appelle Terry Neese à faire quelque chose qui ne s'était jamais vu à The Price is Right.
$23,743, you got it right on the nose.
Au Showcase Showdown, c'est qui le prix
le
de,
jeu
la fin,
de la fin,
là. Il y a comme plein de prix, OK, et tu peux déterminer le montant du prix
tu
que tu vas gagner.
Dépasser.
Tu dois pas dépasser le montant que tu dépasses ou t'es en dessous. Il faut que ce soit le plus bas possible pour que tu puisses gagner les prix. Puis Ted Slauson, il est dans le documentaire et il a calculé le prix exact. Il l'a soufflé à l'oreille de Terry Neese et le gars a donné le montant exact du Showcase Showdown et il a gagné les deux prix. Mais par les deux prix, je veux dire plus que 50 000 $ de prix. Fait que c'est l'histoire de ce gars-là,
okay.
Ted Slauson, qui est un maniaque de The Price is Right.
Mais c'est un peu obsédé, c'est obsessif son affaire.
C'est un prof de mathématiques. Et donc lui...
C'est un peu Rain Man aussi. Là,
man, il s'est fait des programmes de jeux vidéo sur son ordinateur pour apprendre les prix par cœur. Regardez ça, il y a une fascination dans ce documentaire-là, ça dure 1h15 minutes, c'est super facile à consommer. Je vous avertis par contre, c'est très mal filmé, c'est très mal monté.
OK.
C'est esthétiquement
pas de la grande
pas
qualité,
hey, man,
mais ils ont un
là.
Sujet de feu, c'est
le
ça.
Sujet est
okay. C'est comme Jerry Rochon, les plus vieux vont se rappeler de Jerry Rochon qui
c'est sur Netflix, ça s'appelle Perfect Bid. Allez regarder ça, c'est vraiment fascinant.
Le podcast Debout les comiques.
Debout les comiques, c'est nous autres ça, Debout les comiques. Puis on est debout, puis on est comiques.
Oui, puis on se pose des questions aussi. On se pose des questions par rapport à la page 3 du Journal de Montréal.
Ouais, vas-y donc.
Je vous mets la table.
Ah ouais, ouais.
Alors donc, c'est un ancien militaire qui vient d'être expulsé à vie d'un club de tir en Estrie où il invitait en catimini des jeunes à manipuler des armes à feu.
Mmh.
OK, il faisait ça. Le Journal de Montréal, c'est en page 3, donc a mis la main sur une série de vidéos, des photos qui sont quand même préoccupantes parce que le gars, c'est un ancien gars de l'armée.
Mmh.
Et là, il montre comment manier des armes à la façon d'un soldat. Rien de moins. Ça se passait au club de tir Sandhill à Cockshire, Eaton.
Cockshire, Eaton.
Oh, merci, Martin. C'était tellement...
Cockshire, c'est un autre affaire.
J'appréhendais tellement de ce devoir,
moment-là, hein?
De pouvoir prononcer cette municipalité.
Avant qu'on entre en onde, tu nous dis pas, hey, comment on dit ce mot-là?
T'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai...
Ceci dit, lui, il a été banni, mais il connaît le maniement d'armes, pourtant. Là, je
oui,
veux
oui
dire,
vraiment. Il offrait des dizaines d'armes à utiliser par la gang de jeunes. C'était 160 $ par personne pour chaque séance. Lui, il était membre, tout ça. Et là, vraiment, le club de tir se dissocie de ça.
Mais oui.
Ils l'ont barré. Ils disent, non, nous autres, on n'a jamais accordé le droit à ce gars-là de faire ça.
Ah oui. Moi, j'ai déjà fait un tournage dans un club de tir.
Okay.
Et c'était tellement réglementé. Je veux dire, on était quand même une très petite équipe de tournage, mais on maniait des armes.
Exemple de règlement, mettons, que tu n'aurais pas pu faire vite, vite, ben, il t'en vient-tu?
Arrête de dire la manière de prendre l'arme avec toi jusqu'à l'endroit où tu vas aller tirer. Il y a des manières de pouvoir le faire. Après ça, les manières de manier les armes, même sur le champ de tir en tant que tel. Même quand ils nous présentaient les armes, là, parce qu'ils nous avaient présenté la panoplie d'armes qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait tirer avant de se rendre sur le champ de tir en tant que tel. On pouvait pas, on pouvait y toucher, mais pas quand c'était filmé. Il y avait
les balles étaient à une place, puis l'arme ailleurs. Puis
énormément de barèmes. Donc, c'est sûr que lui, ce qu'il fait, c'est totalement illégal.
Et lui, il rentre des étrangers.
En fait, moi, j'en ai aucune idée. Le club de tir, je sais pas si c'est illégal, mais le club de tir se dissocie. Mais est-ce que c'est illégal? Je le sais pas, moi. La question que je me pose, c'est, on peut faire ce qu'on veut dans un club de tir? Tu peux aller là avec mes deux, ma tante, ma cousine, puis on fait ce qu'on veut. Je peux charger des gens, puis profiter des installations du club de tir.
C'est sûr que non.
C'est toute la question de là à dire que c'est illégal, je le sais pas, mais le club de tir n'est pas content. Mais il y a une autre affaire qui est préoccupante, surtout là-dedans, c'est que il n'y a jamais eu autant de fusillades à Montréal, puis là, on fait la promotion de la manipulation d'armes.
À des jeunes en plus, tu sais.
À des jeunes.
Mais je connais pas ce milieu-là du tout. Je sais qu'il y a un club de tir pas loin, à l'Assomption, pas loin de chez nous, là, en allant vers l'Épiphanie, en fait, vers Repentigny, là, sur un petit chemin en arrière.
Il était à La Plaine, si je me trompe pas,
il y en a plein.
Il y a Samuel qui dit le tir, c'est un sport. Quoi de mal de montrer un sport qu'on aime à d'autres?
Je comprends, mais visiblement, il y a quelque chose qui marche pas dans le cas qu'il nous présente.
Je sais pas. C'est pour ça qu'on veut parler à nos auditeurs. Peut-être que vous vous y connaissez en termes de club de tir, jusqu'à quel point on a le droit d'inviter des gens puis de faire payer des gens pour leur donner une formation.
790, c'est quoi? 790-2564. Le texto 96-9-96-9. Jusqu'à quel point c'est réglementé? Et pourquoi ce membre-là s'est fait bannir? Je connais pas ça. Vous êtes propriétaire d'un club de tir, vous êtes membre d'un club de tir, c'est un sport que vous pratiquez, c'est à vous qu'on veut parler ce matin.
Le podcast Debout les comiques.
On se pose des questions concernant un article dans le journal en page 3, un jeune amateur d'armes à feu qui est membre dans un club.
Oui, il est membre d'un club en Estrie, donc il invitait des jeunes à venir suivre sa formation. Il leur apprenait le maniement des armes. C'est un ancien militaire, tout ça, 160 $, mais ça se faisait à l'insu du club, ce qui fait qu'il a été banni à vie du club. Et là, on se demande, t'as le droit de faire ça dans un club, d'amener d'autres personnes? Comment ça marche?
Comment ça fonctionne? On vous a demandé si vous êtes amateur de tir, parce qu'il y en a plein, là. Il y en a un à l'Assomption. On m'a précisé, c'était où? C'est dans le rang de la presqu'île, effectivement, à Le Gardeur. On veut savoir, donc, il y a Félix qui est en ligne. On a plein de questions à vous poser. Salut, Félix.
Oui, bonjour.
Félix, toi, t'es membre d'un club de tir, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis au club de tir Phoenix qui est à côté de Joliette.
OK.
Puis, dans le fond, pour répondre un peu à vos questions, c'est que c'est pas interdit d'amener quelqu'un sur un champ de tir, en fait. On a le droit d'amener, mettons, un ami ou quelqu'un qu'on connaît pour leur montrer les maniements d'un arme à feu. Mais par contre, il faut respecter ce qu'on appelle quand on apprend à faire nos cours d'arme à feu, on doit apprendre à faire le prouver, qui est en fait un acronyme pour un 5 actions. Le P signifie, dans le fond, qu'on doit pointer l'arme dans une direction toujours safe. Ensuite, on a aussi le R pour retirer les cartouches de l'arme à feu.
Ouais.
Le OU pour ouvrir l'arme à feu. Donc, si, mettons, c'est un arme de poing, il faut ouvrir la chambre.
Mm-hmm.
Ensuite, on a le V pour vérifier le système d'alimentation. Donc, c'est là où la cartouche devrait se trouver.
OK.
Et ensuite, c'est simplement vérifier que la chambre n'a pas de cartouche. Parce que des fois, on appelle ça des faux tirs. Des fois, c'est que la cartouche reste là, mais la balle, un coup de feu pourrait quand même partir, parce que des fois, il y a un temps entre le coup de départ de...
Il y a un délai entre l'impact et l'explosion.
Exactement. Donc, peut-être que la raison qui empêche... Peut-être que le point qui a été gêné dans cette situation-là, de ce que j'ai compris, c'est peut-être soit parce qu'il faisait pas peut-être la façon safe, ou sinon, c'est peut-être, comme tu le dis, comme il mentionnait, il payait pour du monde, mais peut-être qu'il laissait plusieurs personnes sur le champ de tir parce que une personne qui n'a pas de permis n'a pas le droit de tirer seule. Il faut toujours qu'il soit accompagné.
OK, ouais, fait que là, il faisait probablement un commerce dans le commerce, puis ça faisait pas l'affaire. Félix, merci de tes précisions. Il y a aussi Sylvain qui veut nous parler, préciser d'autres choses. Merci, Félix. C'est très, très intéressant. Sylvain, salut.
Salut, c'est exactement ce qu'il a dit. Exactement ce qu'il a dit.
Mais c'est super réglementé, Sylvain, donc ce qu'on comprend.
Oui, comme je dis, si j'invite quelqu'un, je dois payer une assurance pour cette personne ou la personne va la payer.
Quand même.
Comprends-tu? Quand tu enregistres, la personne doit sortir son permis de conduire, il doit s'enregistrer et il y a une assurance à payer pour cette personne. Moi, l'assurance fait partie de ma carte d'amende que je paye annuellement à tous les années.
OK.
Fait que Sylvain,
et puis, t'as pas le droit d'avoir ton arme sur toi, là.
Ouais, c'est ça. Fait que Sylvain, quand t'arrives au club de tir, dans le fond, il y a quelqu'un qui gère ça, là. Une espèce d'administrateur, mettons, qui s'occupe de la sécurité de toute la patente. Je présume, en tout cas.
Ouais. Puis, faut réserver. Ça arrive pas là, puis je tiens n'importe quand, surtout depuis le COVID. Faut que je réserve. Bon, ben, je dis, je m'en viens tirer de telle heure à telle heure. OK, ma place est réservée. Et puis, je dois dire, j'invite un invité. L'invité
okay.
est qui? Telle personne.
Je comprends ce que
et
tu veux dire.
Cette personne-là doit mettre son permis de conduire. Et puis, comme je te dis, on doit payer une assurance pour cette personne-là.
En
on
plus.
Doit
payer Sylvain,
pour qu'elle fasse cette journée-là.
Sylvain, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est encore ça? Ben, je sais que ça a déjà été ça. Si tu pars de chez toi avec ton arme et que tu t'en vas au club de tir, t'es obligé d'aviser que tu déplaces ton arme?
Non, mais je peux pas m'en aller. Moi, si je m'en vais à mon centre de tir, je peux pas passer par Montréal pour m'en aller à la prairie. Admettons, tu comprends-tu?
Si tu te faisais arrêter à mi-chemin entre ta maison et le chantier, puis que c'est ton chemin, tu n'auras pas de problème. Si tu es dans un détour, tu vas avoir un problème.
Ouais, puis pour que je le dise, que je suis armé.
Ah, sérieusement, tout ça me rassure énormément, moi. Tout ce que tu me dis, tout ce que Félix vient de nous dire, vraiment, ça me rassure.
Mes armes doivent être dans un caisson fermé. En plus, ils doivent avoir un verrou sur la gâchette. Un verrou sur la gâchette et dans un caisson barré dans ma valise.
C'est ça, c'est pas accessible.
C'est dans la valise. C'est dans la valise.
Mais moi, j'ai une moto, je dois l'emmener dans mon backpack. Tant que mon caisson est barré et que ma gâchette
est barrée aussi.
Son autre barreux, ouais. Double barreux, dans le fond.
Hey, c'est fascinant. Merci. Ouais, merci.
Sérieux, nos auditeurs connaissent des affaires qu'on connaît pas. Pour moi, j'ai l'impression d'animer cette émission-là avec des milliers
ben
de
oui,
personnes plus intelligentes que
salut
moi.
Sylvain. Salut Sylvain, merci beaucoup.
Quelque chose, je peux vous dire juste quelque chose, c'est que moi, avant, j'ai mes armes depuis beaucoup d'années. Avant, j'avais un dépanneur, puis j'avais possession, si tu avais droit de te défendre.
OK.
Il y avait une autre possession. Maintenant, ça n'existe plus, ça.
Le port d'armes est restreint encore plus qu'avant.
Ouais, c'est ça.
Mais plus restreint qu'il était dans le temps.
Merci, d'après Sylvain.
C'est un autre règlement.
Ah ben, écoute, je trouve
merci.
Ça. Merci à toi. Ben, bonne journée à toi.
Un
journée ensoleillée.
On rappelle que c'est un sport.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est ça, là. Mais, tu sais, on a l'impression qu'on va faire des amalgames, mais
on
le voit bien, là, que c'est un sport puis que c'est bien réglementé.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.